journal, Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Ali, bonjour à tous. La France ne confine pas des régions, mais des générations. Les plus de 70 ans sont appelés à rester à la maison et à éviter les contacts pour éviter le coronavirus. L'enjeu, c'est d'avoir le moins possible de cas graves dans les hôpitaux mis à rude épreuve. Le 15, l'appel d'urgence est déjà au bord de la saturation. Également assignés à la maison, les 12 millions d'élèves en France. Emmanuel Macron a décidé de fermer toutes les écoles jusqu'aux universités. Les entreprises commencent à s'organiser pour permettre aux parents de les garder avec du télétravail par exemple. En revanche, pas question d'annuler les élections municipales. Premier tour dimanche au terme d'une campagne fantôme depuis des semaines. Et puis une saison noire aussi pour l'Opéra de Paris entre le virus et le mouvement contre la réforme des retraites. Les annulations se sont enchaînées. Les pertes financières sont très lourdes.
Suite de notre matinale spéciale ce matin après le journal avec celui dont la parole est très attendue après l'annonce de la fermeture de tous les établissements scolaires et ce dès lundi. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer sera l'invité de Léa Salamé dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Un appel à la solidarité et à la responsabilité, Amélie.
Les mots d'Emmanuel Macron hier soir pour sonner l'heure de l'union sacrée face à la plus grave crise sanitaire depuis un siècle, a-t-il dit. Et s'il n'est pas question de confiner la France pour l'instant, le président veut protéger les plus vulnérables, les plus âgés. À ceux de plus de 70 ans, il demande de rester chez eux, de limiter les contacts et les déplacements. Pour certains, c'est un calvaire annoncé. Mathilde Dehimy a joint deux cousines septuagénaires parties en week-end à Trouville.
Francine, 70 ans, est très active, n'a pas vraiment apprécié qu'on lui demande de rester chez elle.
70 ans, quand même, on n'est pas vieux, quoi. Faut pas exagérer, ça me convient pas du tout, ça. Ah non, moi, faut que je voie des gens, moi, je vis toute seule. Si je reste chez moi avec ma figure en face de moi, ça va être catastrophique.
Francine ne sous-estime pas la pandémie, bien au contraire, l'infirmière à la retraite compte se rendre utile.
Bon, je bossais en réanimation, mais je ne suis plus au point avec toutes les nouvelles machines. Moi, lundi, je vais à l'hôpital et je dis, je veux bien retravailler. Je viens faire les prélèvements, je viens faire n'importe quoi, mais je dégage des infirmières qui sont plus jeunes que moi et qui peuvent aller travailler dans les services de pointe.
À côté d'elle, sa cousine Danielle, 73 ans.
En ce qui me concerne, je n'ai pas pesté.
Elle va limiter ses déplacements. Danielle s'inquiète, non pas pour elle, mais pour sa fille qui a une maladie pulmonaire chronique.
J'habite juste à la limite de l'Oise. Je vais limiter quand même mes déplacements pour préserver non seulement mes petits-enfants que je pourrais contaminer eux aussi, et surtout ma fille qui pourrait avoir des problèmes très, très, très graves de respiration.
Emmanuel Macron demande aux personnes fragiles de limiter leurs contacts au maximum, ce qui ne les empêche pas de s'aérer ou faire leurs courses.
Le reportage de Mathilde Dehimy. Pensée solidaire plutôt que solitaire. La formule du président fait mouche, mais l'enjeu, c'est bien d'éviter une saturation des hôpitaux, car déjà, la plupart des centres 15 sont en surchauffe. Le nombre d'appels a doublé depuis une semaine. Les régulateurs doivent faire le tri entre les malades dans un état grave et les Français simplement inquiets. Ils reçoivent le renfort d'étudiants en médecine, retraités, mais aussi d'une nouvelle logistique pour répondre à tout le monde, Véronique Julia, sans faire attendre les vraies urgences.
D'accord, vous avez vu aucun médecin ?
À l'hôpital Avicenne de Bobigny, le professeur Frédéric Adnet, chef du SAMU, le reconnaît, le tsunami d'appels enregistré depuis une semaine a secoué le bateau. 130% d'appels en plus chaque jour, au début panique à bord. Et c'est vrai, dit-il, que ce qu'on appelle le délai de décrocher, le temps moyen d'attente au téléphone a enflé. On est en train partout d'y remédier, assure-t-il, pour pouvoir répondre dans la minute aux vraies urgences vitales.
Ce que l'on met en place de plus en plus, c'est un serveur automatique qui, lorsque l'appel décroche, je vous dis, si c'est un appel lié au coronavirus, tapez 1. Si c'est une autre urgence, tapez 2.
Pour les appels qui concernent le Covid, là aussi on fait du tri. 5% seulement correspondent à des vrais symptômes d'essoufflement. Cela nécessite une intervention d'urgence. Tous les autres, les patients qui ont des symptômes légers, mais aussi les personnes angoissées qui se posent des questions médicales, on peut les renvoyer vers la médecine de ville. On peut aussi, et c'est nouveau, les gérer par des SMS ou des rappels ultérieurs.
Ils appellent le SAMU, on leur dit, écoutez, on va vous rappeler, on les rappelle dans l'heure. Quelquefois, on leur envoie un SMS pour bien personnaliser, si vous voulez, leur demande.
Pour gérer la crise, les effectifs ici ont augmenté de 50%. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Médecins retraités, étudiants, internes et externes. On est même allé chercher d'anciens assistants de régulation médicale qui avaient changé de voie professionnelle pour des renforts ponctuels.
Véronique Julia, l'autre annonce forte d'hier soir, Amélie, c'est bien sûr la fermeture des écoles, des établissements scolaires partout en France.
Les crèches, les écoles primaires, les collèges, les lycées et même les universités. En tout, tout, 13,5 millions d'enfants et de jeunes sont privés de classe, mais pas forcément de cours. L'éducation nationale oriente les élèves vers une plateforme du CNED, des exercices sur les programmes. Également possible, la classe virtuelle. Le professeur peut faire cours à ses élèves par visioconférence. Mais le problème, c'est surtout de garder les enfants toute la journée à la maison. Emmanuel Macron a demandé hier aux patrons de permettre à leurs employés de travailler à distance, d'intensifier le télétravail. Alors dès ce matin, les entreprises tentent de s'organiser, Laurent Kramer.
Maintenir plusieurs millions d'élèves à la maison avec leurs parents s'annonce comme un véritable défi pour les entreprises, souligne Benoît Serre de l'Association nationale des DRH.
Ah non, c'est un véritable problème. On va être confronté à une situation totalement inédite avec des familles qui n'ont qu'un week-end pour se retourner. Mais en revanche, les entreprises vont devoir regarder comment elles font d'une certaine manière une forme de fonctionnement dégradé pour faire des phénomènes de roulement. Il y a des grandes entreprises qui sont en train de checker leur système informatique pour savoir si ça tient. Si vous avez plusieurs milliers de personnes d'une même entreprise qui se branchent sur le même réseau, est-ce que ça tient ? Aujourd'hui, on ne le sait pas.
Et du côté des petites entreprises, maintenir l'activité avec des effectifs restreints pourrait s'avérer encore plus sensible, s'inquiète à la CPME Jean-Hugues Duménil.
Ça va désorganiser le fonctionnement des entreprises, ça va compliquer la vie des salariés. Et puis il y a surtout un point, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc c'est compliqué pour mettre en place des mesures d'organisation quand vous ne savez pas exactement qui ça concerne et combien de temps ça va durer.
Le télétravail n'est pas non plus possible dans l'artisanat ou sur les chaînes industrielles. Les mesures de chômage partiel s'appliqueront également aux salariés contraints de garder leurs enfants à domicile.
Un défi, on l'entend. Alors pour aider les chefs d'entreprise, Emmanuel Macron annonce aussi le report possible des cotisations et des impôts dus en mars, sans justification, sans formalité et sans pénalité. Les transports en commun vont continuer de circuler, pas question de paralyser les déplacements des Français, mais Emmanuel Macron demande à chacun de les limiter au strict nécessaire. Quant à la trêve hivernale, elle est prolongée de 2 mois. Les personnes à la rue sont parmi les plus vulnérables face au coronavirus. Sur les marchés financiers, le vent de panique continue de souffler. Depuis hier, ce matin, l'Asie plonge à son tour. Tokyo a connu sa pire chute en séance depuis Fukushima en 2011. Il finit à moins 6%. Les marchés chinois sont dans le rouge. Hier, les places européennes ont vécu un krach historique. Moins 12,28% à la Bourse de Paris. Idem à Francfort. Près de 17% de pertes à Milan. Nos voisins européens qui adoptent les mêmes mesures que nous. L'Espagne ferme ses écoles, tout comme le Portugal et la Belgique qui décide en plus de condamner les cafés, les restaurants et les boîtes de nuit. Et puis le virus n'épargne pas les grands de ce monde. Au Brésil, le président Bolsonaro saura dans les prochaines heures s'il a été contaminé. Il le dit dans une vidéo où il apparaît avec un masque sur le visage car l'une des personnes de la délégation qui l'a accompagné récemment aux États-Unis a été testée positif. Le chef de service de presse, qui par ailleurs a côtoyé Donald Trump pendant ce déplacement. Ça ne m'inquiète pas, a lancé le président américain qui ne serre plus la main de ses invités toutefois.
7h38 sur France Inter et en tout cas en France, la vie politique ne s'arrête pas, Amélie. Les élections municipales sont maintenues.
Effectivement, les élections municipales sont maintenues, mais la campagne qui se termine aujourd'hui, vendredi, bien cette campagne, ça a été une campagne fantôme. On n'en a presque pas entendu parler, Maxence Lambrecq.
Souvenez-vous, début décembre, presque aucun train ne circule en France. Marine Le Pen reporte son lancement de campagne prévu à Paris. La France vit au rythme des manifestations, des négociations. La réforme des retraites écrase tout jusqu'à la mi-janvier et le retrait de l'âge pivot. Les candidats En Marche en ressortent groggy. Permanence vandalisée, tractage perturbé. Les maires sortants attendent le dernier moment pour se lancer. Anne Hidalgo à Paris, messieurs Barouin à Troyes, Sorel à Montpellier, Rebsamen à Dijon. À quoi bon batailler tout l'hiver ? Mi-février, les municipal enfin à la une car Benjamin Griveaux jette l'éponge à Paris. Toujours pas l'ombre d'un débat ou de nouvelles idées. Chacun repeint son programme en vert, cache son étiquette ou négocie ses soutiens. Puis tombe la bombe du 49-3 avant que le coronavirus ne vienne tout contaminer. Réunion publique annulée à Bordeaux, Toulouse, Perpignan, au Havre encore hier soir. Plus de poignées de main, moins de déplacements. La peur de l'épidémie prend le dessus. Un tiers des Français craignent d'attraper le virus en allant voter selon un sondage IFOP. Et cela risque d'être encore pire dans 10 jours à l'heure du second tour.
On ne manifestera pas non plus pour le climat demain dans la capitale. Les organisateurs annulent leur rassemblement à Paris face à l'ampleur de l'épidémie. Les jeunes de Youth for Climate renoncent aussi à leur action résistante. résistance continue. Leur égérie suédoise Greta Thunberg a appelé pour sa part à une grève numérique sur les réseaux sociaux. Il s'agit de poster des photos de soi avec le mot-clé Climate Strike Online, grève pour le climat en ligne, chaque vendredi. Annulation en cascade aussi dans le monde de la culture à l'Opéra de Paris. Entre le coronavirus et les grèves contre la réforme des retraites, les pertes s'accumulent. Une saison noire que l'institution aimerait sauver avec le début du cycle Wagner, le Ring, en avril. Mais rien n'est moins sûr, Stéphane Capron.
L'Opéra National de Paris se souviendra longtemps de la saison de son 350e anniversaire, la pire de sa longue histoire. L'institution a connu le plus long conflit social depuis sa création, une grève historique de plus d'un mois et demi sur le régime des retraites, entraînant plus de 70 annulations et un manque à gagner de plus de 16 millions d'euros en billetterie, ce qui a contraint la direction d'annuler deux nouvelles productions pour la saison prochaine, un opéra de Janáček et le ballet Le Rouge et le Noir de Pierre Lacote, remplacé par des œuvres du répertoire. Et depuis lundi, elle est nouvelle mesure d'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes. Les deux grandes salles de l'opéra, Garnier et Bastille, sont restées portes closes. Seules sont ouvertes les petites salles, l'amphithéâtre et le studio. Les productions en cours sont annulées. Manon, Balanchine, le spectacle de l'école de danse et Don Giovanni. L'Opéra National de Paris croise les doigts et espère pouvoir présenter le début du cycle Wagner, très attendu. Cela doit être le point d'orgue de la direction de Stéphane Lissner. L'Or du Rhin doit débuter le 2 avril et la Valkyrie le 5 mai.
Stéphane Capron, et ce n'est pas du Wagner, mais le monde merveilleux de Mickey est réduit au silence, lui aussi. Disneyland, le parc d'attractions, ferme ses portes à Marne-la-Vallée, près de Paris, jusqu'à la fin du mois. Le groupe ferme aussi les parcs américains en Californie et en Floride, comme il l'a fait en Asie. Mais c'est temporaire, le parc de Shanghai, en Chine, a rouvert partiellement cette semaine.
Merci Amélie Perrier, à suivre sur Inter, l'édito politique.